Nous avons démarré la table ronde. Je vous propose, alors là maintenant on est sous le signe de l'éducation. Le titre de la table ronde c'est VR, numérique et éducation. Je m'appelle Benoît Lagourdette, je suis cinéaste et pédagogue et expert, on va dire, dans le domaine des nouveaux médias. Comme le disait Alice tout à l'heure, j'avais fondé en 2005 le festival de Pocket Film ici au Forum des Images, avec le Forum des Images. Voilà qui je suis. Je vais vous présenter les intervenants à la table ronde dans une seconde. Je voudrais juste vous passer un message avant qu'on démarre, avant que je fasse une petite introduction. On va essayer d'être synthétique dans nos présentations. Et je vous proposerai pendant les présentations de noter des questions ou des propositions que vous pourriez faire pour qu'on ait un vrai temps d'échange et de contribution mutuelle. Je parle de contribution mutuelle parce que le numérique nous permet aussi de partager plus facilement les contributions. Vous avez à l'écran ce petit QR code là que je mets un peu plus au centre. Peut-être certains ne savent pas l'utiliser, d'autres savent très bien. Vous pourrez vous enseigner les uns les autres tout à l'heure, mais derrière ce QR code, on publiera divers éléments, diverses images, les PDF des présentations, diverses choses que vous aurez vues aujourd'hui. Vous pourrez ainsi y retourner. Voilà, donc ce que je veux juste passer comme message, c'est qu'il y a l'échange qui est le nôtre là en présentiel, mais vous aussi, peut-être si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas eu le temps d'apporter une information importante, vous pourrez me la transmettre. Je vais aussi indiquer juste après mon adresse email, m'envoyer des informations par email et je rebalancerai tout, si j'ose dire, sur la page. Par ailleurs, j'ai posé ici des feuilles de papier et des feutres. Si vous avez envie de faire un schéma, une représentation graphique, que je pourrais scanner et mettre sur la page. N'hésitez pas, ça peut paraître un petit peu bébête comme ça, mais il me semble que l'image, c'est quand même intéressant, utile, et ça fait sens. Il n'y a pas que le texte, donc n'hésitez pas, même pendant qu'on part, si vous voulez descendre, prendre du papier et des feutres, et même vous amuser, griffonner, ça peut faire des choses intéressantes et enrichissantes, même si on les voit après. Voilà pour le petit protocole. Je présente les intervenants, puis je fais une introduction et ensuite on part dans les présentations concrètes. Vous allez voir des choses se faire. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes d'effet démo, n'est-ce pas Fabrice? Alors je commence par Fabrice Lannes, qui est enseignant en sciences de l'ingénieur en section de technicien supérieur conception et réalisation de systèmes automatiques au lycée d'Hydro de Paris. Il rentrera dans le sujet. Là, je fais juste les présentations pour le moment. Et puis, à sa droite, Philippe Taillard, qui est délégué académique au numérique de l'Académie de Paris. Alexandre Allier, qui est producteur associé à la Générale de Production. On va parler d'éducation, mais l'éducation, c'est un terme un petit peu vaste. Donc, ça intègre aussi des questions de production, parce que ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'éducation nationale qu'on fait de l'éducation, bien sûr. Puis, Michael Stora, qui est psychanalyste et expert dans le domaine des mondes numériques, qui est fondateur de l'Observatoire des mondes numériques. Et enfin, Sheila Vidal-Louinet, qui est formatrice académique à Paris, et fondatrice et chef de projet du projet qui s'intitule « Qui veut le programme ?» dont elle vous donnera des détails tout à l'heure. Alors, pour faire une courte introduction avant de commencer les présentations, je fais une courte introduction et ensuite on va faire un brainstorming, vous allez voir comment ça va se passer. Tout à l'heure, Michael, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, Schwarzynski, parlait du côté forain hein, des présentations, des expériences immersives aujourd'hui, je crois que c'est intéressant de se rendre compte que avant l'apparition du cinématographe en 1895, vous le savez sans doute, eh bien, on était à fond dans l'immersion, hein, avant que le cinéma n'apparaisse dans le domaine des médias, notamment avec les panoramas. On peut le voir par exemple avec le théâtre du Rond-Point, qui est rond parce que c'était un panorama et donc un espace immersif dans lequel on pouvait vivre des choses, les fantasmagories avec tout un tas de mises en scène d'images et de sons autour de nous. Donc le cinéma arrive et puis il relègue aux oubliettes ces expériences-là, mais elles sont dans l'énergie, on va dire, de la représentation chez les humains depuis longtemps. Et le cinéma lui-même, avec le triple écran du Napoléon d'Abel Gance en 1927, avec le cinémascope, avec la 3D, avec le Dolby Stéréo, enfin, toutes les questions immersives ont toujours été un petit peu au cœur des enjeux du cinéma. Et puis aujourd'hui, avec par exemple l'immense succès qui a surpris tout le monde de l'Atelier des Lumières à Paris, qui est aussi un espace immersif avec des projections sur des murs. Au demeurant, quand on parle de VR, ça veut dire virtual reality, réalité virtuelle, ça pose aussi des questions, parce que c'est un oxymore, hein, c'est deux termes opposés, hein, réalité virtuelle, et est-ce qu'il ne faudrait pas, pour construire l'esprit critique, ne pas justement opposer ces deux termes-là, et puis ne pas faire semblant qu'on serait dans une réalité. Peut-être qu'il faut justement, pour la construction de l'esprit critique dans notre monde qui est numérique, prendre un petit peu de distance et puis peut-être ne pas être dans une réalité virtuelle, mais bien dans la conscience que ça n'est pas la réalité. C'est un avis, je mets ça en débat, justement, on est là pour en parler. Ce que je voudrais vous dire, je vais juste prendre, moi je commence, hein, je prends un feutre et puis je démarre et je voudrais... vraiment vous inviter, n'hésitez pas à produire des images, vraiment. Je voudrais écrire le mot, comme on va parler d'éducation, hein, c'est la première table ronde, c'est éducation. Donc si j'écris éducation, c'est un peu voilà, le terme qu'on va travailler. Si, par exemple, simplement pour prendre un exemple, je mets le terme cinéma, qu'on connaît bien, éducation au cinéma. Alors on dit image, mais enfin, bon. Éducation et cinéma. Il y a deux approches, en fait. Hein. Il y a l'éducation au cinéma, c'est-à-dire avec la construction de l'esprit critique, c'est-à-dire que sont ces images, comment elles nous manipulent, comment elles sont construites, etc. Et puis, il y a l'éducation par le cinéma, c'est-à-dire, par exemple, en cours d'histoire, on va montrer un film qui raconte je ne sais quel fait historique, pour l'utiliser comme outil d'éducation. Et il me semble que si on parle d'éducation, c'est important, quels que soient les domaines, de bien séparer ces deux points de vue et ces deux usages, finalement, d'un média. Alors là, j'ai pris le cinéma parce qu'il est facile à comprendre, on le connaît, mais le numérique, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut s'éduquer au numérique, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, les algorithmes, que sais-je. Et puis, on peut aussi utiliser le numérique comme un outil éducatif. Par exemple, je sais pas, un tableau numérique interactif dans une salle de classe, c'est une éducation par le numérique, mais pas forcément une éducation au numérique. Voilà, j'espère que la nuance est claire. Et du coup, aujourd'hui, on va plutôt parler de numérique et puis de réalité virtuelle, enfin ce matin. Et par rapport à la réalité virtuelle, c'est pareil, on verra deux types d'approches. Eh bien, on peut éduquer à la réalité virtuelle, c'est-à-dire un peu comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est ce langage, qu'est-ce qu'il nous fait, dans une perspective en fait critique, hein, dans le sens positif du terme, ou alors éduquer par la réalité virtuelle, donc l'utiliser comme un outil pour pouvoir produire une connaissance qui n'a rien à voir avec la réalité virtuelle elle-même. Voilà. Donc je voulais juste poser ces choses-là. Et puis maintenant, je vous propose, avant de démarrer, qu'on fasse ensemble un tout petit exercice de définition, parce que
parce que finalement, il y a beaucoup de mots, hein, il y a beaucoup de jargon dans tout ça, et on sait très bien, tous autant qu'on est, que le jargon, c'est-à-dire les mots incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas dans le champ de ceux qui sont censés les comprendre, c'est un outil de pouvoir, c'est-à-dire l'inverse de la construction d'un esprit critique. Et du coup, je vous proposerai, sur la thématique, peut-être je vous propose de donner des mots, et puis qu'on essaie simplement de les définir. Moi, je les écris, vous avez tous des micros, et puis je les note, et puis par exemple, dans toutes les choses qu'on va traverser, j'aimerais bien qu'on ait une petite collection de mots, si vous voulez y contribuer aussi. Et je vous invite à proposer des mots que vous ne comprenez pas. Hein, on est là pour ça. Osez le faire, hein, on ne va pas vous noter qui vous êtes. On n'est pas là du tout pour se juger les uns les autres. Mais voilà, un petit nuage de mots, ça me semble intéressant. Et puis ensuite, on part dans les présentations. Alors, à vous de jouer. Peut-être je vais mettre le premier. Alors, je mets mots. Le premier, ça va être VR. Alors là, je pense que c'est suffisamment défini. Enfin, j'en ai parlé. Mais je ne dis pas qu'on va forcément tous les définir tout de suite. Mais en même temps, si l'un d'entre vous a envie d'éclairer ce terme, ça m'intéresse.
Non, je peux rajouter un mot que je ne comprends pas. Usage.
Alors d'autres mots, allez-y, il y en a plein, hein, des mots, et vous aussi, hein, voilà, on est face à des mots compliqués. Par exemple, moi je vais en mettre un autre, c'est AR, Augmented Reality, réalité augmentée, c'est une des choses dont on va parler, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Oui. Oui. Important par rapport à la démarche éducative, en effet, à qui on s'adresse. Et c'est vrai que sur la réalité virtuelle, notamment, il y a eu la croyance que ça allait intéresser le grand public, ce qui n'est pas encore le cas. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. On voit bien avec les problèmes d'Arte aujourd'hui. Oui.
Innover.
Le corps.
Dans les mots techniques, parce qu'il y a...
C'est par technique, exemple... il faut être technique.
Non, c'est pas forcément technique, hein, ouais. Mais ça peut l'être aussi.
Alors, pour la technique, l'industrie 4.0.
Au mot réalité, je parlerai aussi de l'actualité, et on verra pourquoi.
VS, réalité, je mets. Mm-hmm.
Et peut-être pour le public, la... la génération digitale mobile.
Il y a aussi ce qu'on appelle la réalité mixte, par exemple. Ça, c'est vrai que quand on le dit comme ça, ça fait rigoler, hein, réalité mixte. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui vont parler ça dans les rencontres pendant ce festival, qui rigolent pas du tout, hein, pour qui c'est très sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions économiques derrière, bien sûr.
Et peut-être immersion ou expérience immersive. Mmh.
On est pas mal, sauf si vous avez des mots à rajouter, mais je pense qu'on est, bien. C'est un petit peu le champ qu'on va explorer. On ne les a pas définis plus que ça, mais ça nous prendrait trop de temps. On va passer par l'expérience pour les définir. Alors, je propose pour commencer à Philippe Taillard de nous présenter ce qui se passe, et je vais tu veux enchaîner toi-même ou je l'enchaîne pendant que tu parles le document,
oui,
ou
si tu pourrais pas l'enchaîner.
Je peux le manipuler pendant que tu parles ou tu le manipules toi-même?
Non, non.
Ok, je le manipule, ça marche. Donc il y a un document, et puis on va écouter Philippe par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le champ de l'éducation nationale avec Voilà, immersion.
Peut-être dire qu'est-ce qui se passe dans l'éducation à l'école avec le numérique. Peut-être dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Benoît, la formation par le numérique et la formation au numérique, et on le retrouve dans la diapo suivante, c'est les trois objectifs que l'on a dans la formation. Alors ça fait peut-être ces termes socialisation, scolarisation, professionnalisation semblent peut-être un peu durs, mais ce sont un peu les objectifs que l'on vit, ces trois objectifs-là. C'est la préparation des élèves à une insertion dans une société numérique, c'est-à-dire développer chez tout élève toutes les compétences nécessaires pour vivre dans un monde numérique. Ça passe par une somme de compétences de base, ça passe par l'éducation aux médias et à l'information, ça passe par l'esprit critique, ça passe aussi par un nouveau dispositif qui est la majorité, enfin, une nouvelle disposition pardon, qui est la majorité numérique de nos enfants ou de nos élèves à 15 ans. Donc on a un travail à faire de formation avant qu'ils puissent exercer cette responsabilité. Sur le volet scolarisation, c'est davantage la formation par le numérique, c'est-à-dire c'est le numérique qui est mis dans les mains de l'enseignant et qui lui permet d'être plus performant ou de déployer des pratiques pédagogiques qui sont plus efficientes pour une plus grande qualité des apprentissages des élèves. Ça, c'est important et on va voir la réalité virtuelle qui apparaît dans ce volet-là, entre autres, et aussi l'image, la vidéo. La vidéo a pris une place très importante dans les nouveaux médias qui sont utilisés, convoqués par les enseignants, et aussi comme mode d'écriture, c'est-à-dire qu'on peut demander à des élèves non plus de restituer un travail fait, une expérience par une rédaction, par un travail écrit, mais par une production d'images, une production de vidéos, et au-delà, une production aussi d'une écriture avec un récit de fait. Et puis on a aussi un champ qui concerne la professionnalisation. Alors on pense aux formations technologiques, on pense à la préparation d'un métier d'ingénieur, de technicien, etc. Mais pas que. Donc toutes ces nouvelles compétences qui sont nécessaires dans les champs professionnels. Les compétences transversales, elles sont définies dans un cadre européen. Ça va être mis en application dans toutes nos écoles, collèges et lycées à partir de l'an prochain. Elles se déclinent en 5 domaines avec ces 16 compétences-là. Ça c'est des compétences transversales. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'enrichissement, le numérique dans les mains d'enseignants pour l'enrichissement des pratiques pédagogiques. On voit aujourd'hui des pratiques qui évoluent très fortement. Cet exemple, dans l'image suivante, c'est un enseignant d'Académie de Paris qui enseigne un métier, on ne peut plus traditionnel, qui est la tapisserie à l'école Boulle. Et ben, tout son enseignement, tous les gestes professionnels, il a construit, il a fabriqué, il a produit des vidéos pour expliquer, pour montrer chacun de ses gestes professionnels. Et il invite systématiquement, il pratique la classe inversée, il invite systématiquement ses élèves à visionner ses vidéos avant une séance de travaux pratiques, d'atelier, et à répondre à un certain nombre de questions pour voir si les élèves ont bien appréhendé les principes qui sont décrits dans cette vidéo. Et les élèves sont capables d'être tout de suite en action quand ils arrivent en cours. Et ils restent autonomes parce qu'au moment où ils ont besoin de conseils, ils peuvent revisionner ces vidéos ou appeler l'enseignant s'il est disponible. Voilà, on voit des pratiques qui évoluent fortement avec l'usage du numérique. On peut passer à la suivante. C'est un exemple de différenciation pédagogique qui est pratiqué en EPS, en éducation physique et sportive. Autre point, c'est le numérique comme objet d'enseignement et de professionnalisation. Alors, vous avez entendu dans les médias avec la réforme du lycée, il y a un nouvel enseignement qui prend place dans les lycées. C'est un enseignement de numérique et de sciences informatiques qui sera un enseignement de spécialité en première et en terminale. Voilà un nouvel ça rentre dans, c'est des formations professionnalisantes. On a depuis longtemps la modélisation 3D, la simulation, la fabrication additive dans toutes les formations en ingénierie. Le numérique, l'informatique, la robotique et l'automatique dans toutes les formations technologiques et professionnelles. Et puis, depuis peu, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, dans un certain nombre de formations technologiques professionnelles, selon Fabrice, on vous parlera. Cette réalité virtuelle, quand elle est utilisée dans les formations, dans la pédagogie, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure où elle est utilisée de manière à pouvoir valider des performances d'un système artificiel qui a été conçu par un étudiant, et il va pouvoir se mettre en immersion dans son objet conçu de manière à valider des performances avant de passer dans la phase de réalisation. Et c'est ce que vous montrera Fabrice. Plus couramment, la réalité virtuelle, ça nous propose des nouvelles modalités d'apprentissage. On a à peu près quatre catégories de formations. On a les formations aux gestes, majoritairement aux gestes professionnels, où l'aspect sensorimoteur est primordial. Ça permet des situations d'apprentissage progressives.
Ah, pardon.
On a des choses pour développer des comportements, des situations à risque. On met des gens en situation de santé, formation médicale, formation à la sécurité. On utilise la réalité virtuelle. Accéder à un environnement qui est inaccessible en classe. Je veux ramener une pièce du musée du Louvre, ou je veux ramener un site ou n'importe quelle image. Je peux ramener un environnement qui n'existe pas dans le sein de classe. Et puis un dernier point, c'est l'écriture numérique. C'est la possibilité d'engager les élèves dans une production d'une ressource immersive et de la réalité virtuelle suite à un travail d'apprentissage, suite à une expérience ou suite à une création. C'est ce que Sheila va vous montrer. Voilà.
Et quelques petits...
On va s'arrêter là.
Ouais, ok. Merci beaucoup, Philippe. À toi de jouer, Fabrice.
Oui, donc bonjour, je suis Fabrice Lannes, donc enseignant au lycée Diderot, et je travaille avec des sections de techniciens supérieurs et également avec des sections de pré-bac en sciences de l'ingénieur, dans lesquelles on va avoir à utiliser la modélisation 3D, mais ça on le faisait déjà depuis pas mal de temps, pour expliquer des concepts où on va pouvoir, avec l'aide d'un modèle par exemple, pouvoir montrer, agir sur des choses de manière à avoir quand même une approche, une immersion plus grande. Donc les étudiants sont plus au fait de comprendre un certain nombre de procédés. Là par exemple, je vais expliquer les différents modes de fonctionnement d'une machine et sa représentation graphique par rapport à ce qui se passe. L'intérêt de la réalité virtuelle dans ce cas-là, lorsqu'on leur fait faire des expériences, c'est déjà de s'affranchir des dimensions. Donc on peut aller d'extrêmement grand à extrêmement petit de manière instantanée, je dirais, et également de s'affranchir de la matière, puisqu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur des pièces, voir les agencements, rentrer dans un engrenage, voir les pignons tourner, etc. Enfin, ça dépend de la conception qu'on veut faire. J'enseigne également dans des sections donc de BTS, de Bac plus 2, CRSA, donc conception-réalisation de systèmes automatisés, où là, ça prend tout son sens, puisqu'on va bien sûr s'en servir pour pouvoir faire des apprentissages, mais on va surtout s'en servir pour que les étudiants créent eux-mêmes leur modèle. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'industrie 4.0, c'est-à-dire qu'actuellement, au niveau de la construction des machines, ce qui se faisait au préalable, il y a quelques années de cela, on concevait la partie mécanique, une fois que la partie mécanique était réalisée, on concevait la partie électrique, et une fois qu'on avait la partie électrique, on concevait la partie programmation. Et on s'apercevait qu'il y avait des erreurs, donc il fallait corriger, on avait des retours. Et ça, c'était une perte de gain qui a été estimée par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies à 50, voire plus de 100%. Genre des porte-avions trop courts ou des ponts trop larges. Et aujourd'hui, on développe en même temps à la fois la partie mécanique, c'est-à-dire que lorsqu'on conçoit avec des logiciels professionnels, donc tels que CATIA, SolidWorks ou autres, des parties mécaniques, on va pouvoir, en utilisant d'autres logiciels qui vont nous permettre de réaliser des animations de ces parties mécaniques par rapport aux caractéristiques physiques, inertie, vitesse, etc., que l'on souhaite, pouvoir construire la machine et l'animer. Et une fois qu'on a cette animation, on va pouvoir la programmer. C'est-à-dire qu'on fait les trois choses en même temps, et donc on développe à la fois les trois principes de base de la machine directement. Donc on gagne du temps et on a des retours directs. Si on voit que la pièce est trop courte ou trop grande, on peut la changer directement et voir son influence par rapport à ça. On a également des critères de caractérisation en fonction des charges que l'on veut mettre. On va pouvoir déterminer, grâce à l'aide de logiciels aussi plutôt puissants, les caractéristiques des moteurs implantés dans les machines. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a développé le système, qu'on en a vu la programmation, je vous avais mis tout à l'heure les logiciels qu'on utilise pour faire les programmations, donc on va pouvoir voir les évolutions, etc.
On va passer à la phase de réalité virtuelle, c'est-à-dire que là, l'étudiant va rentrer la machine dans l'environnement. À partir de là, on va aborder d'autres thématiques, c'est-à-dire la pénibilité du travail par rapport aux places qu'on doit faire, comment on va circuler autour de machines, les zones de sécurité, etc. Donc on va dans des domaines qui sont beaucoup plus pointus. Alors on m'a demandé de faire bref, je ferai très bref, je vais vous voir disparaître, mais vous verrez peut-être à l'écran ce que je vais pouvoir faire. S'il y a des parmi vous qui veulent faire des essais après, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Donc, voilà.
Attention.
Donc là, on va pouvoir intervenir sur la machine, donc la mettre en route, agir directement. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, fais attention que je ne marche pas dessus, puisque... Donc là, j'appuie sur l'urgence, ce n'est pas une bonne idée. Il va falloir les enclencher. Alors, c'est l'effet Bonaldi, mais... Et donc, on va pouvoir fermer la porte, par exemple, et puis après agir sur le système pour pouvoir. Voilà. On va mettre la machine donc, en position initiale. À ce moment-là, on est obligé d'attendre que la porte, donc ça c'est la partie programmation, que la machine soit en position pour pouvoir ouvrir la porte. Alors là, je vais me baisser, pardon. Pour pouvoir mettre donc, la palette dans la machine, on voit les gestes qu'on sera obligé à faire, etc. Et ensuite, faire fonctionner la machine donc, en automatique. Là, il y a des petites difficultés sur la partie manuelle. Bon, vous voyez le principe, et on a également donc, toute la modélisation de l'ensemble de la pièce. On peut après se déplacer pour aller donc, naviguer à l'intérieur. Alors, dans les casques que j'ai, là, c'est un casque qui est un peu, transportable, donc tout fonctionne avec le portable, ça tient dans un sac à dos, mais normalement, avec notre casque, on a également l'intégration des caméras qui permettent de voir l'environnement existant, etc. Avec un peu plus de stabilité. Donc j'espère avoir pas été trop chronophage.
Voilà, je sais pas si c'est passé.
Merci beaucoup. C'est génial. Merci beaucoup. Sheila, on échange de place.
Oui.
À toi de jouer. Alors c'était. Ça, c'est. Vous voyez comment on est. Hein. C'est... Voilà. On pense au rythme. Alors, je te mets ton document et l'autre caméra.
C'est fou, hein, tout le monde. Dès qu'on parle de numérique et de technologie, il n'y a que des hommes à la table. Mais n'ayez pas peur, mesdames, parce qu'en fait, le numérique et je veux dire la réalité virtuelle, je vais vous montrer qu'on peut en faire une utilisation évidemment très technique, comme mon collègue a pu vous présenter, mais aussi assez simple, et avec nos élèves. Alors, en tant que formatrice, moi je me suis intéressée à la réalité virtuelle, enseignante aussi, je me suis intéressée à la réalité virtuelle parce que je me suis aperçue que ça pouvait être un moyen... D'abord, de toucher absolument toutes les disciplines, d'aller chercher énormément de compétences et de pouvoir les cibler, de mettre en activité, alors j'emploie un peu des termes jargonneux, mais vous allez vite comprendre pourquoi je parle de ça, de pouvoir mettre en projet, de mettre en activité ses élèves et de créer de production, de leur demander de produire un travail. Comment je change mes slides ?
Voilà, vas-y.
On a vu rapidement avec Philippe que, et puis je pense que vous le savez, que la réalité virtuelle permet, d'une façon générale, c'est l'utilisation la plus courante qui est faite aujourd'hui, d'aller visualiser une zone géographique. Les cas les plus intéressants que moi j'ai pu croiser des expériences que j'ai pu faire, ça a été lors d'un voyage par exemple à l'étranger avec une classe à Londres par exemple, aller filmer le globe et les élèves reviennent avec cette captation en 360 degrés et vont pouvoir à partir de là retravailler, revenir dessus. Ou alors avec les cycles 1, 2 ou 3, donc de la maternelle à la sixième, en SVT, pouvoir mettre cette petite caméra donc, que vous voyez ici, ça c'est la caméra que j'utilise, qui est assez petite. L'avantage c'est que lorsqu'on pose cette caméra dans un environnement, elle ne se voit plus du tout. et elle disparaît complètement à l'image en 360 degrés. Ce qui permet, par exemple, on a travaillé sur un spectacle sur le lombric et ça a permis de pouvoir poser cette petite caméra dans un compost et de voir en 360 degrés ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Donc d'un point de vue éco en SVT, par exemple, c'est extrêmement pratique. Donc, revenir avec ce type d'image et pouvoir retravailler dessus avec ses élèves, c'est un moyen très intéressant d'utiliser la réalité virtuelle. Et puis, l'utilisation que j'en fais en formation, et c'est dans ce sens que je tente de former les enseignants, c'est vraiment de rendre l'élève le plus actif possible. Moi, c'est vraiment la partie qui m'intéresse, en leur demandant de produire une ressource immersive. Alors, comment ma spécialité, c'est un peu le spectacle vivant. Donc, je vais beaucoup dans des salles de spectacle et dans des coulisses et sur des plateaux de théâtre. Et par exemple, on a imaginé ce qu'on pouvait faire comme utilisation avec la réalité virtuelle. On utilise un logiciel open source qui s'appelle Oculus. Je crois que tu as ouvert les fenêtres.
Tout à fait. Je te le mets. Il est...
Voilà.
Ici.
Alors là, on a simplement pris à l'intérieur du théâtre. Vous voyez, là, on a accroché en fait la caméra sur un cintre. Et donc là, on est vraiment sur une image en 360 degrés. Et on s'est amusé à prendre le plateau de théâtre en 360. On a imaginé que ça pouvait faire suite, par exemple, à une visite, comme ça se fait souvent d'une salle de spectacle, où ça peut être un musée, hein, vous mettez évidemment la caméra où vous voulez, que les élèves vont être en activité parce qu'ils vont évidemment prendre une image en 360 degrés, mais ils vont pouvoir aussi, avec leur téléphone portable, prendre des images de l'espace, du lieu, s'ils sont autorisés, ils vont pouvoir effectuer des interviews pendant cette visite, prendre des notes, enfin tout ce qui se fait habituellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois en revenu à l'école, ils vont pouvoir, avec un logiciel comme celui d'Oculus qui est assez simple d'utilisation, entrer dans les pastilles que vous voyez là et à partir de là intégrer dans leur image en 360 degrés. Ils vont pouvoir intégrer du texte, ils vont pouvoir intégrer de l'audio, ils vont pouvoir intégrer la vidéo. Bref, développer différents champs de compétences qu'ils ont pu aborder avec leur enseignant. Ça peut être un enseignant de français, mais ça peut être un enseignant de technologie, ça peut être peu importe la compétence qui est ciblée à ce moment-là en fonction de la discipline qui est appréhendée. On voit donc les avantages pédagogiques d'un outil comme celui de la réalité virtuelle qui permet d'apprendre évidemment en s'immergeant. En découvrant, on l'a vu donc tout à l'heure, de nouveaux événements, il y a aussi un effet évidemment de vivre et de ressentir, ce qui est extrêmement intéressant pour important pour nos jeunes. Je termine.
Non, je t'en prie.
Voilà. Mais juste, j'ajoute quand même, il y a d'autres utilisations intéressantes de la réalité virtuelle. Moi je m'intéresse aussi beaucoup au masque en lui-même, parce qu'un masque ça coûte cher, tout simplement. Si on prend un masque très élaboré, c'est tout de suite 200-300 euros d'investissement. Et il existe des plans qu'on trouve assez facilement, de petits masques en carton. Ça, celui que vous voyez, c'est un masque qui a été créé lors du salon du numérique qui s'est déroulé le 29 mai à la Grande Halle de la Villette avec l'Académie de Paris. Et c'est un masque qui a été créé pendant le salon par un élève du lycée Léonard de Vinci. Tout simplement, ce masque qui fonctionne très bien, il suffit de mettre son téléphone portable à l'intérieur avec un logiciel dédié d'open source, en open source, et de pouvoir apprécier l'image immersive. Donc c'est la fabrication d'un masque comme celui-ci, c'est 2-3 euros à peu près. Nous on fait des ateliers et ce qui est intéressant, c'est que à partir Moi, d'un point de vue, en tous les cas, nous, d'un point de vue pédagogique, bien sûr qu'il y a la partie... oui, merci.
Ouais, je t'en prie.
Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Voilà. Il y a la partie, évidemment, fabrication du masque, mais si on va sur... qui veut programmer une association de voix 1901 que j'ai créée, qui se compose notamment d'enseignants, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, des briques pédagogiques qui ont été créées pour le cycle 4, donc pour le collège, et le cycle 3 en physique sur qui s'intéresse justement à l'utilisation du masque de réalité virtuelle où on voit qu'en sciences physiques on va pouvoir utiliser la question des lumières, la question des lentilles, la question de la vergence, de la convergence, enfin, bref, tout peut faire sens au niveau des programmes et on peut tout à fait utiliser le vivant complètement. Ça va depuis la fabrication d'un masque de réalité virtuelle à son utilisation, à l'utilisation de l'image en elle-même dans un endroit dédié à l'intérieur d'une classe. Et voilà, et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous parler des termes de réalité virtuelle qui sont essentiels parce qu'on emploie ça à tout vent et puis on se dit la virtualité n'est pas la réalité virtualité. Or on appelle bien ça la réalité virtuelle. Est-ce que quelqu'un sait parmi vous ce que signifie le mot virtuel, son étymologie? D'où ça vient le mot virtuel? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Non? Vir en latin c'est quoi? C'est? Non! C'est la farce! C'est l'homme qui bande, Wir. C'est, non, au sens propre du terme. C'est la force, c'est la virilité, Wir. Donc, simplement, la virtualité, chez les Grecs, c'est un mot qui est utilisé depuis Platon, la virtualité. C'est un terme qui existait déjà pour désigner, en fait, la puissance, la force. Et c'est un terme, notamment, qu'on retrouve dans un mythe que vous connaissez certainement, qui est celui de la caverne de Platon, où, vous savez, ces petits personnages qui sont coincés à l'intérieur de la caverne et qui voient des ombres, qui pensent que ce sont de vrais personnages qui sont animés, or, ce ne sont que leurs ombres. Or, ils prennent cette virtualité pour des images aussi réelles, aussi puissantes, que si c'était de vrais personnages. Donc c'est intéressant parce que ça replace aussi la question de nos jeunes aujourd'hui et ça permet de faire un peu de MC et de Clémy, l'éducation à l'image, sur la question du positionnement de nos jeunes, sur la question donc de cette réalité virtuelle. On parle de virtualité, certes, sauf que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est dans cet espace mobile en 360 degrés, est-ce qu'on est dans un espace réel? D'une certaine façon, j'ai envie de vous répondre oui. On recrée une réalité, mais nous sommes dans une réalité. Et bien souvent, nos jeunes déplacent justement cette réalité vers cette virtualité. Ce qui serait plutôt intéressant, ça serait plutôt d'opposer la réalité à la virtualité, ça serait de l'opposer à l'actualité, c'est-à-dire ik et nunc, ici et maintenant. Il y a, à mon sens, une réflexion à avoir sur le fait qu'il y a une confusion de la part de nos jeunes entre ce ici, maintenant, cette actualité dans laquelle nous sommes, et cette virtualité où il y a une absence de repère. Voilà. Donc c'est une réflexion, je lance quelques pistes parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais c'est une réflexion qui mérite d'être poussée et que m'arrive de pousser un peu en atelier. L'utilisation aussi que moi j'en fais et que qui veut le programme notamment en fait de la réalité virtuelle, c'est une utilisation au sein d'un espace comme celui du théâtre où à l'inverse on peut très bien aller demander, créer justement une visite en réalité virtuelle sous forme de jeu de piste en allant même jusqu'à un escape game et proposer aux élèves par ce biais. Ça peut être fait au sein d'un établissement scolaire aussi, d'évaluer, de valider des connaissances. Par exemple, vous avez un spectacle sur la Seconde Guerre mondiale, vous allez recréer un jeu de piste à l'intérieur du théâtre ou autour des coulisses et sous forme de QR code, utiliser la réalité virtuelle pour valider des connaissances ou évaluer l'élève, etc., etc. Voilà, je suis désolée, j'ai été bien plus longue, je suis une vraie bavarde, je ne suis pas une fille pour rien. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
pour faire la transition avec Alexandre Allier qui est producteur, je crois que la question de la créativité, c'est aussi dans l'acte, créer quelque chose, c'est une façon aussi de s'approprier les langages. Et je crois que c'est vraiment ce que vous faites. Et c'est une dimension, on le sait, je pense tous, extrêmement importante et motivante aussi pour, dans le cadre éducatif. Alexandre Allier.
Merci. Donc, je me présente Alexandre Allier. Je suis producteur à la Générale de Production, qui est une structure de production qui a été créée en 2001 et qui produit différents contenus, et notamment la réalité virtuelle. On en parle. La question de l'éducation à la création, elle pose la question du continuum. Il faut à tout prix que l'éducation, déjà, n'est pas cantonnée à la salle scolaire. Elle se poursuit d'autant plus qu'aujourd'hui, et notamment par l'image, si on sait qu'aujourd'hui, pour une classe d'âge adolescente, le moteur de recherche principal, c'est YouTube, ce qui dirait en creux qu'il n'y a pas d'autre information qui soit une image, ça dit l'absolue nécessité d'investir l'image de contenu intelligent si possible et créatif. Pourquoi le créatif, ça ne se décrète pas, c'est là aussi une histoire de moyens, mais parce que la création et la réflexion formelle, le propos, dédramatise la transmission. On voit aisément les questions de simulation pratique de la réalité virtuelle, la formation, la mise en situation, la simulation, tout ça c'est assez... C'est très probant et c'est extrêmement efficace, mais d'une manière générale, le besoin de compréhension et d'acquisition de connaissances, il porte énormément de secteurs. Les vidéastes sur YouTube sont majoritairement des vidéastes de transmission, de vulgarisation de connaissances. Hein. Je pense à Hugo Travers, Dirty Biology, des gens comme ça. La réalité virtuelle semble aussi répondre en tout cas dans son industrie dite culturelle. C'est une industrie qui est au carrefour des producteurs audiovisuels, dont je suis, mais également du jeu vidéo. Donc nous, en tant que producteurs, on essaye d'investir ce terrain-là. Une petite remarque, mais qui est une digression, c'est-à-dire que je ne crois pas que sur le numérique, il y a une éducation au cinéma et une éducation par le cinéma, mais le numérique est tellement partout qu'il est... et je ne crois pas à ce territoire numérique. Et de la même façon qu'il y a un continuum entre la salle de classe et le reste, il faut que nous puissions avoir conscience par le numérique qui s'est invité dans à peu près toutes les sphères de notre quotidien, de la nécessité de le comprendre, puisqu'on l'utilise en permanence. Donc voilà, c'est vrai que les mots sont des obstacles. Moi, je disais sur la question de l'usage, je suis assez sceptique parce que je ne sais pas ce que ça dit. C'est invoqué en permanence et notamment par les responsables audiovisuels pour dire il faut changer, c'est des nouveaux usages. Le numérique charrie une mythologie absolument incroyable de modernité, entre guillemets, de nouveau monde versus l'ancien monde. Non, il faut, comment est-ce qu'on crée par la réalité virtuelle justement des moments sociaux, médiation, qui non seulement sont dans l'expérience, mais également dans le retour d'expérience qu'on peut en faire derrière. Et je crois que c'est la qualité principale de la VR, à mon avis, dans socialement, c'est cette, par la technologie elle-même, c'est l'obligation d'une recherche formelle et d'une écriture, donc c'est quand même, et l'écriture est au commencement de toute création, et deux, dans la diffusion, c'est une condition un peu exceptionnelle de diffusion qui crée un événement, et cet événement, si c'est réussi, si l'histoire est bonne, et ainsi de suite, crée un moment d'échange entre le professeur et ses élèves, ou dans un groupe, voilà. Donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on sortira en septembre? C'est mon associé Jeremy Pouliou qui a produit avec Arte cette production qui s'appelle Accused Number 2, qui sera distribuée sur Arte 360 et d'autres plateformes, le procès Rivonia de 64, les militants de l'ANC, Nelson Mandela, Walter Sisulu, on avait les éléments sonores. On a recréé en 12 minutes le procès Rivonia avec 3-4 moments scénettes en animation qui sont une présentation de l'apartheid. Peut-être qu'on a une bande-annonce.
Tout à fait. Je la lance.
Dédramatise une transmission, un savoir, et on amorce quelque chose. C'est-à-dire que l'AVR devient un amorçage, une étincelle d'une médiation qui doit exister, et elle n'a absolument pas vocation à supplanter le travail des médiateurs, et notamment les premiers d'entre eux, les enseignants. Il y a quand même une question, on parlait de continuum, il y a une question fondamentale qui est celle du financement, parce que c'est un financement qui est très sous-estimé, notamment le financement éducatif par l'audiovisuel public. Aujourd'hui, France Télévisions Éducation, c'est 0,25% des obligations d'investissement de programme. C'est-à-dire sur un budget de 420 millions d'euros, c'est 1 million d'euros. Ce qui est déjà trois fois plus que ce que c'était, mais ça dit la priorité qui est accordée, y compris au CNC. D'ailleurs, la réalité virtuelle aujourd'hui reste quelque chose d'assez marginal, qui n'est pas structurellement poussé dans son financement, et ça reste accessoire. Et enfin, l'éducation nationale, moi je trouve qu'il n'en fait pas assez. On parlait de la place de l'image socialement parlant. Quand on connaît le budget et l'investissement qu'ils font chaque année dans les contenus, et c'est normal, je crois que c'est plus de 300 millions d'euros dans les livres scolaires, ainsi de suite, il me semblerait opportun qu'il y ait un tout petit pourcentage de cette somme qui soit allouée à des productions audiovisuelles et donc virtuelles. Mais j'ouvre le débat.
Merci beaucoup. On va écouter Michael Stora et on débattra après. Alors, Michael Stora a été un des premiers thérapeute a utilisé le numérique de façon tout à fait inattendue et nouvelle il y a déjà, je pense, une vingtaine d'années dans le cadre thérapeutique. Voilà, tu vas partager avec nous ton point de vue là-dessus. Et je vous invite, parce que une fois l'intervention de Michael Stora terminée, on part en discussion. Donc je vous invite à préparer, à fourbir vos questions. Faites-le en vrai. Parce que vous savez, sinon après, il y a une sorte de moment creux, personne ne dit rien. Pourquoi pas, hein, ça fait un ange qui passe. Voilà, à toi, Michael.
Merci beaucoup, Benoît. Et je remercie, comme d'autres, Jean-Christophe Théobald de m'avoir invité. Est-ce que c'est possible de mettre la vidéo, mais sans le son?
Bien sûr.
Alors, juste pour vous dire, voilà, vous allez voir une vidéo avec un habillage très propre. Qui est réalisé par un site qui s'appelle VR, for good, Donc c'est la société Oculus, c'est Facebook, hein, puisque comme vous savez, Facebook a racheté Oculus. Alors vous savez que l'Oculus a été inventé par un monsieur qui s'appelle Palmer Luckey. Alors on en a un peu entendu parler parce qu'il s'avère qu'il a créé un blog suprémaciste puisqu'il soutenait Trump. Il a dit cette drôle de phrase, il a dit au fond, j'ai créé la VR pour l'Europe et pour les pays où il y a des problèmes de faim. Pourquoi ? Parce que nous, en Californie, on va super bien. Donc ça sera un bon antidépresseur. Alors je trouvais ça intéressant, cette idée que la VR soit peut-être une nouvelle forme d'antidépresseur. Alors j'ai vu évidemment... Ah non, c'était pas celui-là. Ah si, d'accord. J'ai vu... Ready Player One, qui est quand même très intéressant avec ses réflexions en lien avec l'idée, je disais dans un interview, mais qu'est-ce qui va se passer si tous ces adolescents vont avoir ces lunettes VR pour voir des films ensemble et pour le premier flirt, comment vont-ils faire pour s'embrasser? Donc on pose cette question et c'est très intéressant parce que très rapidement, il y a cette idée d'un rêve. Oui, c'est vrai, moi qui ai beaucoup travaillé sur le jeu vidéo, j'ai même utilisé le jeu vidéo pour soigner les enfants. Je me suis dit, c'est étrange, cette réalité virtuelle ressemble à ce qu'on appelle, nous, comme psychanalyste, la réalité psychique, peut-être même à un rêve, une sorte de rêve arrangé dans lequel on agit, dans lequel il est possible de faire des choses, de redevenir acteur, interacteur. Et il s'avère que moi qui soigne des enfants parfois qui ont vécu des traumatismes, je me souviens encore d'un ado totalement accro à Fortnite qui n'arrêtait pas de dire, moi j'en ai marre, toute la journée on me flingue. Et qu'est-ce qu'il fait sur Fortnite? Il flingue. Donc il y a cette idée, voilà, de... Le virtuel a cette dimension intéressante. Et alors là, où étrangement, dès que la réalité virtuelle est arrivée, on a évoqué la question de l'empathie. Alors tiens, je vais peut-être... Alors est-ce que c'est... Puisque tu as une caméra. Oui. C'est tiré d'un article d'une revue Ouzbek Erika que j'aime beaucoup. Et c'est l'idée que la réalité virtuelle serait-elle une machine à empathie? Alors c'est intéressant parce que est-ce que l'empathie est quelque chose qu'on utilise dans l'apprentissage? Oui, sauf qu'on ne le voit pas directement, mais ce qui fait qu'un élève va d'autant plus apprécier un cours, c'est qu'il y a cet aller-retour entre ce qui est évoqué, d'un point de vue affectif presque, et que finalement cet aller-retour va peut-être même permettre d'avoir une forme d'appropriation qui passe au-delà de l'image, hein, qui passe dans un rapport même affectif au professeur. Alors là vous avez un monsieur qui s'appelle Chris Milk, qui a fait du TEDx, qui a énormément parlé de la réalité virtuelle comme vraiment quelque chose d'empathique. Alors c'est intéressant parce que oui, c'est vrai qu'il y a une dimension étrange, d'ailleurs j'ai pu voir, lorsqu'on met les casques, il y a un réflexe étrange qui est de se retourner. Et ça, vous savez, dans le développement du bébé, la première fois où le bébé physiquement arrive à se retourner, c'est déjà une manière, d'une certaine manière, je me répète, de pouvoir... envisager un début de séparation, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à se détourner de cette dimension fusionnelle. Alors c'est quand même intriguant, c'est-à-dire que oui, il y aurait cette idée que grâce à la réalité virtuelle, je pourrais me retourner et avoir une perception où je ne suis pas face à une image, mais je suis face à un cadre dans lequel je suis. Je suis image d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu étrange parce que nous sommes dans une société d'image. Nous pensons en image, nous détestons en image, et en même temps, lorsqu'on voit un joueur de jeu vidéo, simplement avec sa main, il y a un pouvoir d'immersion impressionnant, très impressionnant. Et c'est vrai qu'un de mes collègues avait écrit cette phrase que je trouve splendide, qui dit « La main est la métaphore du moi dont le but est de serrer le monde entre son poing fermé ». C'est-à-dire qu'avec la main, il y a un enjeu de maîtrise puissant. Nous sommes en train de se rendre compte que nous sommes dans une société où le regard lui-même a à peu près cette même fonction. Le regard a une fonction d'emprise sur le monde. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu inquiétant parce que le regard n'est pas toujours une sensorialité empathique, justement. Le regard, c'est quelque chose qui a tendance à mettre à distance. Peut-être qu'un des succès d'ailleurs du portable tactile, c'est de pouvoir enfin toucher cette image qui d'habitude nous échappe. La sensorialité de la main, du toucher, c'est une manière, c'est un peu les premières expériences, mais c'est une manière de pouvoir prendre compte de l'existence de l'autre. Alors, c'est d'ailleurs parfois inquiétant, parce que quand moi-même, j'aime bien m'amuser avec la réalité virtuelle, et alors là, c'est intéressant, parce qu'on voyait votre main. Mais souvent, on ne voit pas le corps. C'est un vrai souci. On ne voit pas son corps, on est
on est dans une expérience très inquiétante. C'est ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être soi-même acteur d'une situation dans laquelle je suis. Et ça, c'est un vrai souci, de ne pas voir son corps. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu plein d'expériences, entre autres une, sur comment sensibiliser des gens à la problématique des SDF. Donc, c'est une université anglaise qui a dit, tiens, on va créer un environnement très bien fait où je vais incarner quelqu'un qui n'a plus de logement, qui devient SDF. Grand protocole de recherche pour se rendre compte que, en effet, c'est quand même impressionnant, plus de 80% des gens ont enfin, grâce à cette expérience, financé un peu d'argent sur une association pour aider les SDF. Sauf que très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un one shot, que ça ne perdurait pas dans le temps. Ça a même été plus loin. Tiens, on va prendre un raciste de base, on va lui faire jouer à une situation où il va pouvoir finalement vivre ce que c'est d'être un noir parmi des blancs, toutes sortes de choses. Ça n'a pas marché. Je tiens quand même à le préciser, c'est que malheureusement, on est arrivé encore à une situation où l'image n'est pas suffisante pour pouvoir vivre réellement ce qu'est ce fameux sentiment d'empathie. Ça va même plus loin. Alors, ce sont des collègues qui sont des psychologues dits expérimentaux, donc avec des protocoles de recherche, vous savez, où on met les êtres humains dans des situations de laboratoire. C'est très compliqué. Un être humain est une donnée très compliquée à analyser. Il y a tellement de biais. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de l'humain. Il semble-t-il, j'ai appris que même les rats ont des émotions, leurs résultats ne sont pas toujours les mêmes selon les jours. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a une dimension importante, et c'est pour ça que cette question de l'utilisation d'un outil, un outil éducatif en soi, est tout à fait pertinent, mais je pense que c'est important de repérer les limites. C'est important de repérer les limites et de se dire qu'on est encore dans un espace ludique. Je crois véritablement à cette question du ludique. Il n'y a pas plus empathique que le ludique. Et je crois que cette dimension d'un jeu va permettre d'une certaine manière de pouvoir mieux saisir pourquoi pas des enjeux. Et moi qui ai beaucoup travaillé à l'époque avec certains, entre autres ministres, sur l'introduction du numérique à l'école, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que jouer ne fait pas partie de la culture éducative. Et pourtant on s'est rendu compte que c'est en manipulant une information, c'est en jouant avec une information que finalement on se l'approprie. Et ça va même plus loin. Vous connaissez peut-être certains Stanislas Dehaene, grand penseur de la pédagogie, qui dit « c'est en se trompant qu'on apprend ». Alors c'est intéressant parce que le jeu vidéo ne vous juge pas quand vous trompez. En fin de compte, même, il vous apprend que c'est en perdant qu'on apprend à gagner. Donc je crois qu'il y a quelque chose de se dire que, au-delà de cet impressionnant dispositif technologique qui fait qu'on est dans une image, il y a un moment la question de se reposer la question du contenu même de l'image. Je crois qu'il faut un moment arrêter de s'arrêter sur l'outil, même si l'outil, dans sa particularité, est importante. Mais c'est finalement, comme toujours, le contenu de ce qu'on imagine. Et je crois que mon travail auprès des enfants et des adolescents m'ont montré à quel point ce n'est pas un espace politiquement correct. Je crois qu'il faut oser pouvoir jouer. Pourquoi pas à certains moments avec la réalité, que ça soit d'un point de vue graphique ou que ça soit d'un point de vue du contenu. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup, Michael. Alors, abonder dans ton sens, quand tu parles de jouer, c'est vrai que quand j'évoquais la créativité, c'est un petit peu la même idée. Hein. Jouer, c'est être créatif, c'est-à-dire faire ce qui n'est pas attendu, être dans l'inattendu, dans l'invention. C'est évidemment comme ça qu'on s'approprie, mais il est évident que ça ne peut pas produire d'emblée un résultat évaluable positivement. Je vous ramène aussi à un beau livre de 2015 qui s'appelle « L'âge du faire », F-A-I-R-E, de Michel Lallemand. Et cette question du faire, en fait, c'est vous m'avez compris, hein, je vous propose maintenant de faire la parole aussi, vous, de contribuer à des choses. Peut-être ça peut être poser des questions aux personnes qui sont à la table, mais ça peut être aussi contribuer. Tout cela est enregistré, donc à vous de faire.
pour ceux qui utilisent la réalité virtuelle pour les enfants, comment c'est finalement accepté dans la communauté, les différentes communautés, que ce soit scientifique ou en entreprise, enfin pas en entreprise, à l'école, comment d'un point de vue éthique, la réalité virtuelle est acceptée?
Je pense que la question est pour toi, Philippe. Au niveau par rapport aux enfants et aux jeunes gens, alors la question éthique, peut-être vous pouvez préciser un petit peu ce que vous mettez derrière un usage qui potentiellement ne serait pas éthique de ces technologies.
Par exemple, lorsqu'un enfant, enfin, déjà on parle des
mal de mer.
Motion sickness.
Ouais.
Comment on comprend ? J'ai pas le terme.
Le mal de mer.
Ce genre de effet secondaire, sachant que lorsque l'enfant est à l'école, il n'y a pas un responsable. Comment tout ça gère en fait ?
La question est toujours sur l'acceptabilité de cette technologie dans des actes d'apprentissage, d'éducation, de formation. Le peu d'expérience qu'on a pour le moment, on se rend compte que les expériences immersives, elles ne peuvent se faire que sur des temps courts. Une expérience immersive, pour un individu, c'est 5 minutes. On va pas au-delà parce que c'est difficilement supportable pour chaque personne d'être isolée dans cette immersion. Donc on s'aperçoit, l'expérience montre que ce sont sur des temps, les usages se font sur des temps courts. Voilà, le premier aspect. Le problème de mise au point de technologie. Si vous avez un déphasage entre les accéléromètres que vous avez en interne dans vos oreilles et puis les accéléromètres que vous avez dans l'appareil, s'il y a un décalage, forcément, votre cerveau il est très perturbé parce que l'image ne bouge pas de la même manière que votre cerveau l'imagine par rapport à l'habitude. Donc ça, c'est un problème de technologie. Ensuite, l'autre limite, la troisième limite, la deuxième limite, c'est le fait d'être isolé. C'est-à-dire que dans les solutions avec casque, avec masque, l'apprenant ou le spectateur manipulé, acteur, il est isolé dans ce monde-là. Et on sait très bien que par rapport à l'école, les apprentissages se font majoritairement par les interactions sociales entre les individus. Donc ça veut dire que ça nous renvoie à l'idée que ces temps où l'apprenant est isolé dans un casque ne peuvent pas être trop longs. Et puis ça nous invite à regarder les autres solutions technologiques. Il existe non pas des masques mais des cubes immersifs, et qui permettent de vivre une expérience à plusieurs. Et là, on rajoute la dimension d'interaction entre des apprenants ou un formateur et un apprenant, et là on améliore sensiblement la technologie, le dispositif, la technologie qu'on fait.
Après, il y a aussi une question qui est de temps en temps évoquée, mais pas très répandue, sur la question des lentilles. J'ai pu lire à différentes reprises, mais il n'y a aucune, pour l'instant, étude, aucun texte, aucune loi à ce sujet, que tant que la rétine de l'enfant n'est pas suffisamment fixée, donc 8-9 ans, on évite de lui mettre sur la tête un masque de réalité virtuelle. Et c'est, voilà, en gros, c'est la pratique que j'en ai. Après, on peut lui montrer une image en 360 sur une tablette, un ordinateur, bien entendu, mais plus petit, moi j'évite de lui mettre un masque. Voilà. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a rien de fixé à ce sujet pour le moment. En tout cas.
Il faut voir également que, pour ma part, au niveau des étudiants, il y en a quand même beaucoup qui ont déjà essayé, donc c'est pas une découverte. J'ai eu une étudiante une fois qui m'a dit non, elle m'a rendu malade, donc elle ne voulait pas le faire. Mais c'est vrai que ce sont des séquences qui sont utilisées. Ils modélisent quelque chose, ils essayent, après ils reposent le casque et on modélise autre chose. C'est pas une entière maintenance sur le casque.
Oui, donc, je voulais poser.
Non, il y a juste un tout petit point sur la techno. Il y a aussi une grammaire terrible, hein, mais c'est pas qu'une image, c'est un son. Et le son est, pas paradoxalement, mais le grand gagnant de cette écriture virtuelle. C'est-à-dire que là, il y a une promesse d'interactivité, mais un bon récit, c'est une dynamique. Et pour tenir le récit, il faut pouvoir. Il faut que l'œuvre puisse orienter le regard. On l'oriente souvent par le son. On sent un peu, on pressent que la vidéo aujourd'hui n'est pas complètement au point et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animation aussi, qui pose aussi des questions de coût. Parce qu'il y a, voilà, et puis après les technos de plus en plus élaborés, c'est vrai que ça va très vite parce que ce casque-là, par exemple, est infiniment meilleur que ce qu'on pouvait avoir. Et donc il y a effectivement une démocratisation avec des casques qui sont abordables. Aussi.
La question déjà était, la réponse est déjà apportée en partie, mais je me questionne beaucoup sur la dimension effectivement collective de l'expérience VR. Je sais qu'il y a des expériences qui ont été menées technologiques justement pour qu'on se retrouve à plusieurs dans un univers tout en portant quand même un casque, donc l'impression d'immersion soit très forte. Je pense que cette techno-là n'est pas encore totalement, sinon aboutie, en tout cas diffusée. Donc je voulais voir comment vous pratiquiez collectivement la VR, si c'était chacun son tour ou si les expériences pouvaient être simultanées. C'était un peu cette question-là. Et puis peut-être la question au producteur, du coup, où on a ces pistes-là, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez? C'était un peu cette question-là.
Alors je sais qu'il existe et on l'a fait, mais il existe en tout cas des petits logiciels assez simples qui permettent de lancer simultanément le programme à plusieurs personnes. Encore une fois, c'est ce qui se passe derrière qui est intéressant. On avait, c'était pas en réalité virtuelle, mais c'était une fiction interactive qu'on avait développée qui s'appelait Tantal et qui, le but du jeu, c'était comme un livre dont vous êtes le héros, il fallait choisir le scénario, et donc ça se jouait sur son ordinateur. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que, ou sur son smartphone, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce qui était le plus intéressant, c'était l'expérience collective, et notamment la diffusion en salle. C'était intéressant parce que ça enclenchait sur le vote. On se rendait compte qu'on avait des comportements assez massifs, et c'était beaucoup plus agréable d'être un salopard massivement. Que seul. Et donc c'était derrière ce que nous pouvions en tirer d'amusement et même de plaisir collectif qui était intéressant dans cette interactivité. Ce qui, moi, me fait dire que c'est la chance de ce type de lieu, c'est-à-dire du cinéma. Aujourd'hui, l'image doit ou peut être, encore une fois, une étincelle d'un moment social différent, parce que contrairement à ce qu'on dit sur les usages de la désynchronisation et ainsi de suite, je suis peut-être naïf là-dessus, mais je crois qu'il y a un besoin réel de dépasser l'écran pour retrouver quelque chose de plus collectif. Et la VR, en soi, elle crée une émotion, donc on peut partager cette émotion. Et là, ça engendre une conversation.
Sur la question collective, c'est pour ça que je me suis permis, pendant que tu parlais, de faire passer la caméra, c'est que finalement, c'est vrai que le vécu dans le casque, il est individuel, mais vivre des émotions collectives avec une prise de distance, comme ça, quelqu'un qui manipule, tout comme on l'a vécu tout à l'heure avec toi, Fabrice, où on voyait, nous, sur l'écran, ce que tu voyais dans ton casque, ça relevait d'une forme d'expérience collective avec une forme de distance, mais je veux dire, on vivait quelque chose, on riait en voyant justement l'écart entre toi physiquement dans l'espace et l'image qui était. Donc on pouvait aussi nous mesurer ta perception, la perception qu'on aurait eue. Et donc je pense que la dimension ludique aussi, de jouer avec les outils, de faire avec les outils ce pour quoi ils ne sont pas conçus, je crois que c'est une belle façon de s'y approprier aussi.
Ça m'inspire une de mes premières expériences de jeu vidéo avec un jeu qui s'appelle Deus Ex, pour ceux qui connaissent. Et c'est un jeu à la première personne. Dans ces jeux à la première personne, vous ne voyez que votre bras. Et à un moment, mon avatar se retrouve dans une salle de bain. Bon, et il se regarde dans le miroir. Je suis en train de regarder mon avatar qui lui-même se regarde dans le miroir. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des mises en abîme, qui en effet vont accélérer d'une certaine manière cette illusion plutôt jouissive de se dire voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je crois que c'est vrai que justement jouer avec ces questions du son qui nous surprend, ces images, et c'est une manière intéressante de pouvoir envisager. Alors c'est la première fois que je fais une conférence où l'animateur est lui-même un cinéaste et joue avec nos images. Et alors que nous en parlons, donc c'est vrai que tu joues beaucoup sur les mises en abyme, je trouve ça intéressant, et c'est sûr que, voilà, je crois que c'est un peu cette question de dire, mais au fond, je repensais à cette problématique d'isolement, puisque au fond, au-delà de la réalité virtuelle, les relations virtuelles sont des relations où nous sommes seuls, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on se sent seul, et finalement, on rencontre son autre avatar. Et je crois que il y a déjà des espaces où les avatars en réalité virtuelle peuvent se rencontrer. Peut-être que certains ont pu voir ça. Je sais que même Skype réfléchit à des manières de se rencontrer inter-avatars. Et c'est vrai que au-delà du côté bal masqué, qui fait que les gens se désinhibent et peuvent enfin dire, oser faire certaines choses, d'une certaine manière, on est encore dans quelque chose qui, heureusement, n'est pas trop sérieux.
Bonjour, Joaquim Acosta, donc médiateur numérique pour l'association ICI. J'étais en train de penser justement par rapport à la notion d'empathie qui était développée par Michael Estoura. Finalement, si on pense par exemple au Sensorama avec une des toutes premières expériences de réalité virtuelle, si on pense par exemple, vous avez cité Ready Player One, il y a une combinaison. Si on pense par exemple aussi à The Taxi ou je pense à Sword Art Online, il y a la question aussi de la douleur et du corps qui est très présente. Finalement, est-ce que le casque, c'est pas finalement le principal handicap ? Est-ce que finalement le casque, c'est pas finalement ce qui limite aussi bien, donc voilà, ce qu'on parlait de la question collective, mais finalement ce qui limite aussi les possibilités, ce qui finalement nous focalise uniquement sur notre attention sur l'œil, sur simplement donc la vue, et pas fait communiquer avec les autres sens aussi.
C'est pour moi cette question de l'empathie qui est abordée. Hein. Si vous allez voir, vous tapez VR et empathie, c'est énorme. Tout ce qu'il y a comme littérature, ça prend une proportion étrange. Et je crois que le VR for Good de Oculus, derrière c'est Facebook, c'est une manière implicite de faire que les mondes numériques, quelque part, s'immiscent et prennent le pouvoir sur nous. Je crois que cette dimension que le regard serait la manière d'envisager le monde, c'est ça qui les intéresse derrière. Parce que vous avez raison, ces expériences-là, comme moi j'ai pu voir au salon au 104, il y avait une expérience où j'incarnais un réfugié, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une expérience VR financée par le Croissant Rouge, vous incarnez un réfugié syrien, c'est incroyable, c'est d'une puissance, mais ça ne va pas forcément provoquer de l'empathie, mais plutôt de la sympathie. Et beaucoup de gens différencient véritablement ces deux émotions. Je crois qu'on est en train de se rendre compte que l'empathie, c'est lié à toute une histoire bien plus profonde, bien plus compliquée, qui est celle de l'être humain. Et je crois que cette tendance, sauf dans des cas d'éducation intéressante, pratique, pragmatique, où, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant que vous ayez utilisé sur le procès du graphisme qui n'est pas un graphisme réaliste, et à quel point ça peut toucher d'autant plus justement cette dimension de personnage. Et je crois que c'est ça la question, c'est que finalement le storytelling n'est pour les causes entre guillemets, malheureusement n'est pas suffisant, parce que derrière c'est quand même cette idée que la VR serait la solution
au fond, à notre manière d'aller mieux, de mieux comprendre les autres. Et vous savez que Mark Zuckerberg lui-même a tenté quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, en direct, on voyait son avatar et une copine alors qu'il y avait une inondation catastrophique. Alors qu'il était chez lui, dans un espace où tout allait bien, il s'est retrouvé immergé dans un... Alors immergé, c'était le mauvais mot, puisque c'était une inondation, mais dans une situation catastrophique. Et c'est vrai que c'était une manière de dire, voilà, grâce à ma technologie, puisque c'est lui qui finance l'Oculus, eh bien, il y a une possibilité, enfin, de pouvoir mieux sentir l'urgence et la catastrophe naturelle. Non, je crois qu'il manque quand même cette dimension, c'est pour ça que je m'étais permis de parler du corps. Et je crois que ce qui nous permet de nous sentir exister profondément dans le rapport à l'autre, c'est nos cinq sens. On ne peut pas faire l'économie des cinq sens. Ou alors on joue avec nos sens. Non,
alors écoute, c'était vraiment bien.
Ouais, c'est pour ce modèle. Ni de la puissance publique d'ailleurs. Hein, parce que c'est vrai que ces GAFA sont surprenants dans leur capacité à nous faire croire qu'ils améliorent le monde. Et parce que c'est le credo aussi de Twitter, de Facebook, de YouTube. Voilà, c'est pour ça que l'investissement, la puissance publique, la modération, finalement la politique est importante. C'est marrant, j'ai été dernièrement interrogé par une société qui finalement a avoué qu'elle travaille pour Google et pour m'interroger sur le bien-être numérique. C'est intéressant cette question du bien-être numérique qui est devenue, je trouve, voilà, la VR comme une sorte d'expression un peu excessive de ce que ça voudrait dire être bien. Le bien-être, non pas le fait d'être bien, mais c'est le bien-être numérique. C'est-à-dire cette question que le numérique nous permettrait enfin d'aller mieux. Et ça, c'est quand même, assez inquiétant. C'est ça que je veux dire.
Du coup, moi, il y a plein de termes dans ton... Pardon, je suis là, Alice. Je suis designer interactif. Et du coup, vous avez parlé là, du corps, du multijoueur et d'empathie. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais au salon de la vague virtuelle. J'ai essayé, en fait... On se dit que l'empathie vient de l'immersion, donc du rapport au corps. Et c'est-à-dire que plus on a ce sentiment de présence, dont on n'a pas encore parlé, parce que le sentiment de présence, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en réalité actuelle, plus on le renforce par des technologies qui sont des technologies haptiques, qui vont renforcer ces cinq sens, plus on va être empathique. En réalité, vous l'avez dit, je trouve ça très intéressant, que finalement, on se rend compte que l'empathie ne passe pas tant par le regard ou par le fait d'être plus immergé, mais immergé dans une réalité, du coup en 360. Et du coup, je voulais revenir appuyer sur le multijoueur. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en réalité virtuelle. Et les expériences que j'ai faites à Laval, celles qui ont été le plus marquantes, n'ont pas été celles qui ont été technologiquement les plus loin, c'est-à-dire par exemple avec des retours haptiques ou des choses comme ça, mais celles où je pense à une expérience en particulier qui a été faite avec Be Another Lab, qui est un laboratoire qui travaille beaucoup sur les expériences à deux. Et en fait, ça a été l'expérience où on était plusieurs en même temps simultanément et où le retour haptique n'était pas un retour haptique simulé, mais par la présence d'une personne réelle, dans la vie réelle. Et donc là, du coup, ça aborde un autre sujet sur cette notion d'immersion qui est le lien entre le tangible et le virtuel et les ponts qu'on peut faire en réalité virtuelle là-dessus. Et je pense que là où on va aller plus loin dans l'empathie, dans l'immersion et dans l'émotion, puisque c'est quand même ça qu'on veut faire vivre au final, c'est en créant des ponts entre le tangible et le virtuel et entre la présence du coup multijoueur de plusieurs personnes simultanément qui vont interagir et dans l'espace physique réel et dans l'espace virtuel. Bon voilà, c'est une petite... je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous positionnez-vous là-dessus dans vos termes de...
Simplement...
Pardon. Non.
Il y a une petite caméra qui, vous avez remarqué, qui bouge. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue visuel, surtout que... mais tout de même, l'expérience montre qu'avec la réalité virtuelle, on n'a pas besoin de bouger la caméra puisque l'image bouge déjà. En fait, ce sont les... Voilà, c'est le paysage qui s'anime autour, que nous animons, mais bouger avec une caméra, ça donne vite le mal de mer.
C'est marrant, j'ai, par rapport à votre question, il s'avère que j'ai depuis 10 ans reçu des jeunes qui sont venus pour des prétendues addictions aux jeux vidéo en ligne. Ils jouent en ligne, ils ont, sont souvent des jeunes avec des compétences de joueurs impressionnantes, plus que des hardcore gamers, quoi. Bon, ils sont, bon, peu importe. Cette question de la relation à l'autre et comment est-ce que finalement l'IRL, d'ailleurs c'est assez drôle, c'est la rencontre en IRL qui venait confirmer que l'autre existait, que je pouvais avoir un lien avec l'autre. Mais d'ailleurs, ça faisait très peur. La plupart de mes patients avaient très peur. Il y avait déjà une problématique en lien avec le corps, leur propre corps, et le surinvestissement de l'avatar comme une manière d'éviter son propre corps. Et je suis d'accord sur le fait que l'idée, je n'ai pas testé ça, mais j'ai testé d'autres expériences où tout d'un coup j'ai le casque et en même temps quelqu'un me touche physiquement. Je ne sais pas si c'était ça qui se passait, mais quelque chose ensemble. J'ai trouvé ça génial. Personnellement, je dirais que, d'ailleurs suite à ça, avec une amie qui est artiste plasticienne et contemporaine, Séverine Assouline, on a imaginé une exposition qui se serait appelée Real Touch, justement. C'est-à-dire comment il serait possible d'utiliser la réalité virtuelle pour se toucher, jouer avec cette question du toucher et de l'image. Je crois que c'est ces allers-retours-là qui sont aussi amusants. Je crois que, justement, moi qui ai travaillé malheureusement avec des enfants autistes, et les autistes ont cette problématique d'avoir les cinq sens très séparés les uns des autres. Et quand ils arrivent à faire des correspondances entre certains sens, ils commencent à percevoir le monde en entier. Ce sont les autistes, quelque part, qui nous montrent cette problématique-là et comment les technologies devraient être au service de nos cinq sens pour jouer avec ces cinq sens et non pas simplement pour nous imposer, d'une certaine manière, un point de vue où il ne serait pas possible de déborder. Il ne serait pas possible de manipuler les règles, par exemple. Donc je serais curieux d'avoir cette expérience, mais je crois véritablement que d'ailleurs, je me suis amusé à toucher l'épaule de quelqu'un qui faisait une expérience. Bon, heureusement, je n'étais pas tout près, parce que j'ai cru m'en prendre une, mais c'est vrai qu'il était très surpris. Mais je crois que c'est ça qui est amusant, c'est de pouvoir jouer à se surprendre avec le toucher alors qu'on est immergé. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on est véritablement du côté du ludique.
Je voudrais peut-être un peu changer de sujet pour revenir sur quelque chose qui est un petit peu plus terre-à-terre par rapport à l'usage de la VR. C'est que jusqu'à il y a quelques années, le monde industriel a influencé la vie. C'est-à-dire que les écrans tactiles, par exemple, sont issus du milieu industriel parce qu'ils en avaient besoin. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le monde qui influence la manière de produire et la manière de fabriquer. Notamment, chacun veut sa personnalisation, son produit, le veut tout de suite en plus. Donc ça oblige les industriels à s'adapter au milieu de manière à concevoir des machines qui, à partir d'une commande internet, produisent le paquet et l'envoient. Ça, c'est déjà fait, L'Oréal le fait, etc. Donc toute cette partie-là induit aussi qu'ils ont besoin, pour être productifs, pour être plus réactifs, de la VR comme d'un outil. Et une fois de plus, c'est un outil où on en fait soit des œuvres d'art ou des choses purement pratico-pratiques, mais on n'y échappe pas.
Alors, moi j'ai une petite question suite à tout ce qu'on dit sur nos expériences avec nos sens et tout ça. Est-ce que vous pensez que la VR c'est forcément fait pour tout le monde ou c'est possible qu'il y en a, ça marche pas et c'est pas un outil qui fonctionnera? Enfin, je pense à ça parce que pareil, dans la vague virtuelle j'ai fait une expérience et depuis j'ai plus jamais un casque de VR parce que déjà je détestais l'idée que je vois plus ce qui se passe dans mon environnement. Du coup, je préfère la vie augmentée. Là, je ne voyais plus, donc il pouvait se passer n'importe quoi autour de moi, ça me faisait très peur. Et en plus, bon, c'était une expérience dans un manège, dans une fête foraine, mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que ça monte très 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 haut, et j'ai vertige, et j'étais super mal dans l'expérience, et j'ai fermé très très fort les yeux, et j'ai dit arrêtez tout, et je ne pouvais plus rouvrir les yeux tant qu'il n'avait pas arrêté. Et je me suis dit, mais au final, est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est forcément fait pour tout le monde, quoi?
On n'est pas obligé.
obligé de répondre aux questions. Hein.
Non, mais
c'est beau, des questions aussi, comme celle-là.
Je fais le parallèle avec les gens qui ne supportent pas l'hypnose. Alors, je sais pas, mais il y a des gens pour qui ça ne marche pas. L'hypnose, on ne sait pas toujours pourquoi. On sait que ce sont des gens qui ont tendance à vouloir maîtriser. Parce que peut-être que lorsqu'on se met le casque, il faut accepter un moment de lâcher prise. Peut-être, hein, je ne cherche pas à vous analyser ou quoi que ce soit, mais néanmoins, cette idée d'accepter, d'être immergé, de ne pas tout maîtriser, à part par le regard. Mais c'est vrai que finalement, oui. Après, bon, motion sickness, où on sait que ça existe,
Non, mais il y a un paradoxe, effectivement, entre une contrainte technique très forte et une promesse de liberté et de souveraineté sur le regard. Et là, il y a un petit mensonge. Je crois qu'il... Après, encore une fois, ça dépend de... C'est pas une fin en soi, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a une bonne histoire, est-ce qu'il y a un contenu qui est intéressant, est-ce qu'il y a une émotion. Et ça, je crois que c'est plus universel. Voilà. Maintenant, il y a un problème de... Mais ce qui est intéressant, c'est les promesses de diffusion. C'est, on voit dans les musées, on voit, y compris en termes d'aménagement du territoire. Moi, j'imagine que pour les écoles, ça doit être formidable de pouvoir aller à Orsay quand on est dans la Creuse. Et là, il y a un enjeu d'égalité et de possibilité.
Justement, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à l'émotion, parce que je m'interroge aussi sur ce principe d'immersion, c'est le niveau d'immersion. Parce qu'en fait, on emploie beaucoup ce mot à travers la VR, etc., mais il y a des choses qui sont faites dans le milieu artistique, qu'on peut appeler l'événementiel ou pas, mais peu importe, avec des expos comme celles qui ont été faites à la Villette, comme le Team Lab, les Japonais, et qui en soi n'étaient absolument pas liées à des castes. Je l'ai faite avec grand plaisir et le niveau d'émotion était là parce qu'en fait j'avais des gens autour de moi qui vivaient la même expérience que moi mais différemment parce que le son et l'image étaient assez incroyables. Il y avait une vraie interactivité dans chacune des séquences également et l'interrogation c'est est-ce qu'on parle aussi d'immersion dans ces cas-là parce qu'il n'y a pas de casque, il n'y avait pas d'outils, c'était notre corps qui était l'objet lui-même de l'exposition même si le travail technologique était énorme dans cette exposition. Et je me dis, bah, effectivement, on n'est pas nécessairement tributaire d'avoir un outil posé sur les yeux, une combinaison, etc. Mais on peut vivre de l'immersion. Et je trouve sincèrement que c'était le cas pour cette exposition.
Oui, ça pose peut-être la question de l'immersion et l'interaction. Team Lab, j'ai été à l'exposition, j'ai trouvé ça extraordinaire d'émotion et de... Mais c'était. Je me mettais dans différentes postures, mais est-ce qu'on interagissait? Non, le spectateur n'interagit pas sur. Il n'y a pas d'interaction.
Il y avait des interactions sur certaines séquences, on pouvait modifier le. Quand on touchait une partie des murs, il y avait des zones de travail, enfin des zones de création qui étaient modifiées. Quand on, notre corps, en fait, faisait objet d'art dans l'exposition, parce que. Peu importe la manière dont on touchait, certains n'ont pas l'intégralité de l'expérience, mais il y a certains moments, notamment les zones qui étaient en pluie tombante, en fleurs, etc. Il y a eu d'autres expériences qui ont été montrées aussi au Grand Palais pendant Artistes et Robots, où il y avait des pièces artistiques qui montraient aussi ces œuvres où en fait on n'est pas simplement passif et à regarder, mais on est vraiment dans l'action. Et encore une fois, il n'y avait aucun masque de réalité virtuelle au sein de cette exposition.
Oui, mais je pense qu'il y a les deux leviers. Je pense qu'il y a l'immersion et le niveau d'interactivité, comment j'interagis sur la présentation. Et je pense que les solutions immersives du point d'eau et des rues, c'est extraordinaire, mais il n'y a que l'immersion. Et c'est aussi le fait de voir les œuvres d'une autre manière, de les voir évoluer, de les faire bouger. C'est l'aspect immersion qui est...
On peut en parler quand même, parce que finalement, on n'a pas de casque. On n'a pas de casque, on n'a pas d'outils, nos yeux sont nos yeux, notre corps c'est notre corps, mais on peut parler quand même dans un cadre immersif.
Majoritairement, le spectateur était silencieux.
C'est une vraie question que je me pose parce qu'en fait, dans des domaines où on cherche à faire de la création artistique, tout en imaginant à faire de la médiation avec le maximum de publics différents, effectivement, ces questions de casque, cette jeune femme n'a pas apprécié le principe de réalité virtuelle. c'est des choses à laquelle on doit penser aussi, d'un point de vue coût également, parce que à la fois créer quelque chose d'artistique et en même temps imaginer tout le matériel qu'il y a derrière, c'est forcément un questionnement lourd à porter quand on veut créer quelque chose d'audacieux.
Mais je crois que sur cette question d'interaction, enfin, on n'en est pas au niveau du jeu, je crois, on n'en est pas au niveau du jeu vidéo. Et les grandes œuvres VR, je pense à The Enemy notamment, on est témoin, on est dans l'immersion. Et cette immersion, elle est poursuivie ensuite d'une interaction par le dialogue avec le prof ou avec l'élève et ainsi de suite. Donc l'interaction ne se fait pas forcément dans le casque, tout simplement aussi parce qu'une œuvre est un point de vue. Et ce point de vue, il faut le. Voilà, il faut le débattre ensuite, mais il y a des règles, on parle de son, d'image, de graphisme, qui. Voilà, la main reste, à mon avis, sur la réalisation, et d'une certaine façon, heureusement. Mais je parle pas du. C'est un peu différent du jeu vidéo, là.
Lorsqu'on s'intéresse à l'art numérique, puisque je pense que c'est ça, il y a Dominique Roulon qui est un des grands penseurs, disons, bon, et c'est vrai que moi qui ai eu l'occasion de voir beaucoup d'expressions d'art numérique, soyons honnêtes, on est avant tout spectateurs. Et la question de l'interactivité dans l'introduction de l'art numérique, c'est encore quelque chose de pas évident. Et je crois que cette idée amusante de se dire qu'on est soi-même l'œuvre d'art dans le cadre d'une exposition, c'est très intéressant, même comme miroir déformant de ce que on peut voir sur Instagram ou ailleurs. Bon, on va dire que cette question de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? Touche pas œuvre d'art. L'œuvre d'art doit-elle ou non être touchée? Et c'est vrai que cette question de se dire que quand Benoît lui-même filme des musées ou des œuvres d'art, il les filme. Donc il est lui-même interacteur, quelque part, d'une œuvre. Mais que finalement, on est encore dans cette idée qu'on ne touche pas. On ne touche pas l'œuvre d'art. Donc je crois qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de théoriciens qui vont en disant que l'art numérique, l'art interactif, est transgressif quelque part.
Alors, on arrive.
Allez-y. Désolée, mais en fait, les arts numériques sont en général, par définition, souvent interactifs et que un des enjeux autour de ces œuvres, c'est justement de questionner la place et le rôle du spectateur dans sa relation à l'œuvre. Donc, on est souvent dans des formes d'interaction en relation avec les arts numériques. Donc, c'est juste pour apporter une petite précision par rapport à ce que vous avez dit. Qui
n'était
pas juste.
Je dis ça parce que, j'ai eu l'occasion et la chance d'être invité dans des expositions depuis 10 ans d'art numérique. Et je vais être honnête, j'ai vu des télévisions, avec parfois, c'était même intéressant, des cadres de tableaux autour d'œuvres sur Second Life, entre autres, hein, des choses comme ça, que j'ai trouvé tout à fait intéressantes, mais ce n'étaient pas forcément des œuvres interactives. C'était de l'art numérique.
Non.
C'était quoi?
C'était de l'art vidéo.
Ah,
alors là,
c'est moi.
C'est juste que, et particulièrement à propos de ce dont on discute ce matin, de ne pas faire des généralités sur une discipline. C'est un peu comme si on disait que l'art contemporain ne comprend jamais rien parce que toutes les œuvres sont conceptuelles. C'est pas bon non plus. C'est bon pour certaines, mais c'est pas bon pour tout. Donc ne faisons pas trop de grandes généralités concernant les arts numériques.
Alors, merci. C'est vrai que c'est des choses importantes.
Ce qui est important dans la remarque assez franche qui vient d'être faite, c'est que moi je ne crois pas que ce soit un territoire à part. Et qu'il y a un moment où pas l'art peut être interactif, qu'il soit numérique ou pas. C'est une discipline propre, mais ce n'est pas un territoire. Je ne pense pas qu'il faille. Non, mais je pense pas. Il ne faut pas le ghettoiser ou le sublimer. Si on critique les plateformes GAFA, je ne suis pas technophobe. Au contraire, enfin, on vit avec. Mais il n'y a pas non plus. C'est pas un lieu quoi, sanctuarisé. Et je pense que le numérique, de ce point de vue-là, il est trop souvent fantasmé, je crois. Dans sa promesse qui charrie, je trouve. Hein. Et c'est un lieu formidable de création, de possible. Et super.
Alors merci, je vais faire une petite conclusion à ces échanges qui qui vont pouvoir continuer de façon informelle devant, parce qu'il est, il est l'heure. Je voudrais juste donner une information, c'est que toutes ces questions de réalité virtuelle ont aussi été poussées par des industriels qui voulaient vendre du matériel. Il faut aussi regarder ça en face, et qu'il y a une dimension marketing. Et c'est pour ça que la saine distance et l'esprit critique est indispensable. Et je crois que c'est ce qu'on exerce ensemble depuis ce matin. Et puis, par ailleurs, sur la question de l'art, hein, de qu'est-ce que c'est que l'art et qu'est-ce que c'est que la pratique artistique, il y a des postures extrêmement traditionnelles qui opposent les amateurs et les professionnels, qu'on peut trouver dans tous les champs de l'art, y compris dans le champ de l'art numérique, hein, et que c'est pour cette raison-là qu'on a fait circuler une caméra aussi entre vous. Je crois que la question de l'art, elle se pose aussi dans des pratiques, et dans des pratiques qui ne sont aujourd'hui, du fait du numérique et de la capacité de production et de diffusion que chaque personne a, eh bien, y a des possibilités d'expression artistique et de partage artistique au-delà de la posture, on va dire, vraiment bourgeoise, hein, de l'artiste et des spectateurs de l'œuvre magnifique. Il y a, je pense, quelque chose à risquer, et moi j'ai l'impression en tout cas que c'est tout ce qu'on a reçu. On expérimente, on risque, on n'est pas sûr de réussir, on essaie des choses, et je pense que essayer des choses ensemble, je crois que c'est ce qu'on a fait ensemble aussi ce matin, c'est peut-être ça l'essentiel, hein. Voilà. Alors, je vous ai mis mon adresse email, je vous invite à prendre en photo ce QR code que vous voyez à l'écran, car derrière ce QR code, c'est quoi? C'est une URL, hein, c'est un lien web. Prenez-le en photo. Si vous avez un iPhone, vous allez être dirigé directement sur le lien. Et cet après-midi, je mettrai derrière ce lien les différents documents et puis quelques photos qui ont circulé ce matin. Et donc, si vous souhaitez, parce que certains ont pris des exemples de choses précises, vous avez peut-être parlé un petit peu vite et tout le monde ne l'a pas forcément reçu, parce qu'on ne connaît pas forcément tout, je vous invite vivement à m'envoyer un mail et à me donner vos références si vous en avez. Et moi, je les mettrai sur la page. Parce que, enfin, on le sait tous, parfois ce genre de choses, on entend plein d'informations, mais il y en a, on a du mal à les appréhender parce qu'on a oublié ou c'est passé vite, etc. Donc vraiment, les quelques personnes qui ont contribué, ce que vous avez apporté, c'est très riche, et je pense que ce serait vraiment intéressant pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent aller sur cette petite page modeste, mais je l'espère utile, eh bien de partager un petit peu plus avant. Ce que vous avez proposé. Merci beaucoup, merci à vous, merci Jean-Pierre Théobac, merci tout le monde.